France Inter, 8h. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un revirement géopolitique spectaculaire sur le dossier nord-coréen. On a appris cette nuit que le leader de Pyongyang avait proposé une rencontre à Donald Trump. Invitation acceptée, c'est une victoire diplomatique pour Kim Jong-un. Mais y a-t-il une chance de le voir renoncer à son programme nucléaire? On y revient dans un instant. Donald Trump se rapproche donc de la Corée du Nord, mais il s'éloigne du reste du monde. Le président américain a lancé son offensive commerciale hier sur les tarifs douaniers de l'acier. À 8h20, Nicolas, vous recevez un patron de presse très heureux, Edwy Plenel.
Oui, le président du journal en ligne Mediapart, Mediapart qui fête ses 10 ans. Edwy Plenel, l'invité du grand entretien de la matinale. Amis auditeurs, vous intervenez vers 8h30, 8h35. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Au programme également, le ministre de l'Éducation nationale à l'écoute d'un lycée au bord de l'explosion. Il se rendra au lycée Gallieni de Toulouse aujourd'hui. L'entreprise doit-elle aussi prendre en considération l'intérêt général et pas seulement celui de ses actionnaires? C'est ce que propose en tout cas un rapport remis aujourd'hui au gouvernement. Une révolution médicale à l'horizon. Il sera bientôt possible de prédire les chances de sortir du coma. Enfin, du rugby avec de nouvelles révélations sur la soirée très agitée des joueurs français en Écosse il y a un mois. Rendez-vous en fin de journal. L'affiche a des allures de combat de catch international. Trump face à Hun, le vieux gâteux face à l'homme fusé. C'est ainsi que le président américain et le leader nord-coréen se surnommaient jusqu'ici. Mais tout cela, c'est peut-être du passé. On a donc appris cette nuit que Donald Trump acceptait de rencontrer Kim Jong-un. Un rebondissement après 2 années de tension autour du programme nucléaire de Pyongyang. C'est un conseiller sud-coréen qu'il a annoncé cette nuit depuis la Maison-Blanche.
J'ai dit au président Trump que durant nos rencontres, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était engagé vers la dénucléarisation de son pays. Kim a accepté que la Corée du Nord cesse pour l'instant ses tests de missiles. Il a aussi exprimé son désir de rencontrer le président Trump dès que possible. Le président Trump a apprécié mon compte-rendu et il a répondu qu'il rencontrerait Kim Jong-un au mois de mai pour parvenir à une dénucléarisation de la Corée du Nord.
L'organisation de ce sommet inimaginable, il y a encore quelques jours, reste très incertaine. On évoque le mois de mai, comme on vient de l'entendre. Quant au lieu de rencontre, possible mystère. En attendant, c'est déjà une victoire historique pour Pyongyang, la Corée du Nord qui avait des rêves de grandeur depuis toujours. À Séoul, les précisions de Frédéric Ojardias.
Ce sommet historique et sans précédent est un coup de maître pour Kim Jong-un. Le régime de Pyongyang a toujours rêvé d'être traité d'égal à égal par les États-Unis et il rêve d'une telle rencontre depuis des décennies. Le dirigeant nord-coréen voit dans ce sommet un moyen de légitimer son pouvoir et son régime et les images de la future poignée de main avec Donald Trump feront le régal de sa propagande. Pour persuader les États-Unis, Kim Jong-un a fait monter les tensions jusqu'à un niveau très dangereux à coups d'explosions nucléaires et de tirs de missiles intercontinentaux, ce qui lui a valu au passage des sanctions massives. Son objectif à présent, normaliser ses relations avec Washington et signer un traité de paix. Seul un armistice a en effet été signé à la fin de la guerre de Corée. Le fait que ce sommet soit un succès pour Pyongyang n'en fait pas une mauvaise nouvelle pour autant. Une rencontre face à face avec Donald Trump est le meilleur moyen, peut-être même le seul, de trouver une solution diplomatique à la crise nucléaire. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
À ce stade, Washington reste encore prudent et précise que les sanctions contre la Corée du Nord, elles, resteront bien en place. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Avec vous, on va tenter d'analyser la portée de cette information spectaculaire. À première vue, le casting, en tout cas de ce sommet, n'est pas très rassurant.
Ah oui, les deux hommes ne brillent pas par leur sens de la mesure et leur relation est explosive. Radoteur sénile et petit gros figurent au palmarès des noms d'oiseaux échangés par les deux leaders. L'un a le double d'âge de l'autre. Trump incarne le capitalisme le plus débridé lorsque Kim est l'héritier de la seule dynastie communiste de la planète. Tout les oppose. Depuis 2 ans, le fossé ne cesse de se creuser. Trump a promis le feu et la colère lorsque Kim procédait à son 6e essai et mettait l'Amérique à portée de missile. Les bombardiers américains ont survolé les côtes nord-coréennes et les sanctions continuaient de pleuvoir. tous les oppose, sauf le goût de la lumière et le désir de rester dans l'histoire, ça peut faire une ouverture.
Alors en même temps, Luc, l'annonce de cette rencontre est historique. Hein. Un règlement politique du dossier nord-coréen explosif est-il envisageable ?
Il faut être extrêmement prudent, d'abord parce que la Corée du Nord a déjà par le passé fait des promesses non tenues, la politique du rayon de soleil des années 2000, l'avenue à Pyongyang de la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, les mains tendues ou les pressions des voisins, tout cela n'a jamais empêché la dynastie des Kim de poursuivre son objectif ultime, se doter d'un armement capable de lui servir d'assurance vie. L'autre inconnu de taille, c'est ce qu'acceptera de concéder Washington. Pyongyang veut affaiblir la relation États-Unis-Corée du Sud et obtenir un retrait américain de la région. Or, vu l'état d'instabilité de l'Asie et de son influence grandissante, on voit mal l'Amérique renoncer à ses exercices militaires et rapatrier ses 30 000 GIs de la péninsule.
Luc Lemoynier, merci, chef du service étranger de France Inter.
8h06, c'était jusqu'ici une menace commerciale. Elle a été, Sébastien, mise à exécution hier soir.
Oui, on reste aux États-Unis avec la signature officielle des nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, plus 10% sur l'aluminium, plus 25% sur l'acier. C'était une promesse de campagne de Donald Trump, promesse tenue donc. Le président américain a tenu à le faire savoir hier avec une déclaration bien mise en scène, le président entouré d'ouvriers de la Rust Belt, frappé par la crise de la sidérurgie.
Nous devons protéger et continuer à développer nos industries de l'acier et de l'aluminium, tout en montrant de la flexibilité et de la coopération envers nos vrais amis. Et là, je parle de nos amis sur le plan commercial et sur le plan militaire. Une industrie forte de l'acier et d'aluminium est vitale pour notre sécurité intérieure. L'acier, c'est l'acier. Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays. Mais notre industrie a été la cible depuis des années, depuis des décennies même, d'attaques commerciales déloyales. Et ça a provoqué chez nous la fermeture d'usines, de hauts fourneaux, le licenciement de millions de travailleurs avec des communautés décimées. Eh bien ça va s'arrêter.
And that's going to stop. On le comprend entre les lignes, ces mesures protectionnistes pourraient malgré tout s'appliquer avec une certaine souplesse. Le Canada et le Mexique en seront exemptés si les trois pays réussissent à se mettre d'accord sur un nouvel accord de libre-échange. En Asie, en revanche, protestations appuyées. Le Japon craint un impact grave sur l'économie mondiale. La Chine dénonce une attaque du système commercial multilatéral. Et puis, en revanche, en Europe, protestations plus mesurées au final. L'Europe qui estime pour sa part devoir être exemptée. C'est un autre pays protectionniste dans lequel Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui. Visite du chef de l'État en Inde avec un programme au programme, la vente espérée de matériel militaire, notamment de Rafale. Il y a du retard à rattraper. La France n'est que le 20e fournisseur de ce pays d'1,25 milliard d'habitants. L'Inde, le petit partenaire qui monte, à retrouver sur franceinter.fr.
8h08, on revient en France avec le ministre de l'Éducation nationale au chevet d'un lycée à Boudner.
Jean-Michel Blanquer se rendra aujourd'hui au lycée Gallieni de Toulouse, visite privée, loin des caméras et des micros. Un établissement scolaire au bord de la rupture, traumatisé par une violence endémique, mais qui, depuis le changement de direction, a retrouvé une certaine sérénité. Stéphane Iglesis.
Feu de poubelle, crachats, insultes, trafic de drogue, armes blanches dans certains cartables, c'était le lot quotidien des profs et des élèves de cet établissement depuis l'automne dernier. Un rapport ministériel a d'ailleurs reconnu un climat de violence inacceptable. Depuis un mois, Jean-Michel Blanquer a fait le ménage. Le ministre de l'Éducation a nommé un nouveau proviseur, flanqué d'une adjointe sécurité, une première dans un lycée. Il a aussi changé de rectrice et l'inspecteur d'académie de Haute-Garonne a été remplacé. Des caméras financées par la région ont fait leur apparition dans les couloirs. Même les élèves disent que la discipline a été renforcée. Anthony est en seconde.
Il y a moins de dégâts à la cafette et tout ça. Le règlement a changé, donc du coup c'est plus de portables en cours. Ici, parce qu'avant, en fait, quand les profs voyaient un portable, ils le prenait pas, quoi. Il disait, vas-y, range ton portable, et maintenant, c'est on voit un portable. C'est une heure de colle, plus une exclusion d'un jour. C'est beaucoup plus. Enfin, ça se voit par rapport aux profs et tout ça, ils sont plus stricts, quoi.
Le climat a changé. Éric Abgral est professeur de génie mécanique et représentant du SNES.
Ce qui a beaucoup changé, c'est l'écoute qu'on peut avoir de la part de notre hiérarchie et des partenaires. Il faudra voir si les actes sont du même ordre.
Tout à l'heure, le ministre va rencontrer à huis clos le conseil d'administration et les profs qui le souhaitent pendant la récré.
Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
L'affaire Tariq Ramadan rebondit aux États-Unis. C'est ce que révèle ce matin le journal Libération. Une plainte pour agression sexuelle contre l'islamologue aurait été déposée le mois dernier auprès de la police de Washington. Plainte d'une américaine musulmane sur des faits remontant au 31 août 2013, une période pendant laquelle Tariq Ramadan participait bien à un congrès dans la capitale américaine. Un imam salafiste marseillais, bientôt renvoyé vers l'Algérie, El Hadi Doudi, était poursuivi par l'administration pour ses prêches très radicaux, un double discours qu'il tenait depuis très longtemps. Une commission de magistrats s'est déclarée favorable à son expulsion. Faut-il changer la définition du rôle de l'entreprise? Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne. Aujourd'hui, un rapport remis au gouvernement propose bien de modifier le code civil et d'introduire la notion d'intérêt propre de l'entreprise et pas seulement celui de ses actionnaires. Le gouvernement, qui pourrait même aller plus loin et créer un nouveau statut pour les entreprises qui intègrent dans leur fonctionnement l'idée d'intérêt général. C'est déjà le cas pour ce jeune patron qu'a rencontré Laurent Kramer.
Créé en 2015 à Paris, Lilo emploie aujourd'hui 10 salariés et se définit comme une start-up sociale.
On a reversé 660 000 euros en seulement 3 ans et on prévoit d'arriver aux 1 000 000 d'euros reversés aux associations. Et ça, uniquement avec des recherches internet et complètement gratuitement pour les utilisateurs.
En utilisant son moteur de recherche éthique et solidaire, les internautes génèrent, comme sur Google, des recettes publicitaires, mais qui seront versées à une centaine d'associations humanitaires et non pas aux géants américains. La start-up reverse ainsi 50% de son chiffre d'affaires, explique son cofondateur Clément Lebras.
On peut être une start-up ou une entreprise avec une mission justement sociale au cœur de l'entreprise même. C'est-à-dire que le but de l'entreprise n'est plus simplement de faire du profit, mais d'accomplir cette mission.
Inscrire le principe d'une mission d'intérêt général serait également un moyen de protéger les entreprises qui agissent sans cadre juridique spécifique.
Aujourd'hui, nous, effectivement, on a un statut d'entreprise classique. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette reconnaissance juridique. À un moment du développement de l'entreprise, l'actionnaire pourra pas dire « Ah bah non, moi je suis pas d'accord qu'il y ait cette mission sociale, moi je préfère faire plus de profit au détriment de la mission. »
Ce nouveau statut pour les entreprises permettrait également de vérifier que les missions d'intérêt général affichées sont bien respectées et mises en œuvre par les dirigeants.
Laurent Kramer du service économique de France Inter. Orange et TF1, pour leur part, semblent avoir enfin trouvé un intérêt commun. Les deux groupes ont enterré l'âge de guerre et signé un accord sur la diffusion par l'opérateur des chaînes du groupe TF1 ainsi que de ses nouveaux services. La presse évoque une rémunération de 12 à 15 millions d'euros par an. Pas question en revanche pour Canal+ de céder sur une rémunération de ses services. Canal qui promet toutefois d'ouvrir le signal de TF1 ce soir pour les enfoirés. Il est hors de question, selon le directeur général de Canal+, de pénaliser, dit-il, une cause telle que celle des Restos du Cœur.
À 8h12, cette question, Sébastien, sera-t-on un jour capable de prédire la sortie du coma?
C'est l'espoir en tout cas que fait naître une étude menée par des médecins français, belges et italiens. Grâce à certaines techniques d'IRM, il serait possible de pronostiquer précisément les chances de réveil. Daniel Messager.
L'étude a porté sur des cas de coma après arrêt cardiaque. Ce sont des cas où les réactions sont toujours identiques. Sur 200 patients dans le coma après une semaine, les chercheurs ont appliqué une technique d'IRM particulière qui mesure les mouvements dans la zone principale du cerveau, celle composée de matière blanche où s'effectuent les connexions entre les neurones. Le professeur Louis Puy-Basset, chef du service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, a piloté cette étude.
Ça permet de préciser exactement les lésions que présente le patient dans son cerveau en 3 dimensions. D'avoir la localisation des lésions et de déterminer le pronostic pour ce patient donné. On arrive à mesurer l'état de la connexion entre les différents cortex cérébraux. Et quand cette connexion est abîmée au-dessus d'un certain seuil, eh bien, il ne peut pas y avoir de retour à une vie relationnelle de qualité. Et au-dessus d'un certain seuil, on est absolument certain qu'il va récupérer. Il faut absolument continuer les traitements.
Grâce à ces mesures supérieures à tous les autres tests utilisés aujourd'hui, il sera possible de projeter des chances de réveil ou pas au bout de 6 mois et de préparer alors les familles en s'appuyant sur des bases fiables. Cette technique pourrait être utilisée aussi sur d'autres types de comas provoqués par exemple par des traumatismes crâniens.
Daniel Messager, spécialiste santé à France Inter. Un mot de sport avec le foot français qui retrouve des couleurs. Lyon a battu le CSKA Moscou 1-0. Tandis que Marseille l'a emporté face à l'Atlético Bilbao 3-1 hier soir lors des 8e de finale aller de l'Europa League. On revient également un instant avec les Jeux Olympiques après les Jeux Olympiques.
de Pyeongchang en Corée. Place aux Jeux paralympiques d'hiver. 670 athlètes représentant 45 pays ont rendez-vous pour 10 jours de compétition. Cérémonie d'ouverture ce soir à 20h. En rugby, l'équipe de France, elle affronte l'Angleterre demain au Stade de France, le fameux crunch, pour son avant-dernier match du tournoi des Six Nations. Côté coulisses, un mois après la virée nocturne des rugbyman français à Édimbourg, en Écosse, le flou demeure sur ce qui s'est vraiment passé. 8 joueurs ont été bannis de la compétition. Officiellement, on leur reproche d'avoir fait la fête après la défaite. Cécilia Arbona nous en dit plus.
Ce n'est pas la troisième mi-temps arrosée en discothèque qui pose problème, c'est le retour à l'hôtel. Des camarades se retrouvent dans les chambres, passent commande auprès du room service, des hamburgers et des bières sont livrés. Sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, les esprits s'échauffent, des jeux et des défis un peu stupides sont organisés. Un joueur se cogne contre une lampe, un autre se blesse à cause d'une table de nuit. Ce qui est troublant, c'est l'intervention de la police écossaise au moment du départ des Bleus. Plusieurs joueurs sont entendus en qualité de témoins. Mais témoin de quoi ? La Fédération française de rugby refuse de répondre. Arthur Ituria, dans une interview à Midi Olympique, évoque plusieurs incidents. Teddy Thomas, sur un réseau social, parle, je cite, d'une gonzesse à l'hôtel. Au moins 4 jeunes femmes auraient été présentes. L'une d'elles aurait fait un signalement au commissariat après avoir reçu des gifles et des fessées. L'enquête interne de la FFR a été confiée à une commission collégiale. Elle doit rendre ses conclusions à la fin du mois.
Cécilia Arbona. Allez, on termine avec un retour gagnant pour Serena Williams, la tenniswoman américaine qui a remporté hier à Indian Wells son premier match après 14 mois d'absence. Une absence justifiée par la naissance d'une petite fille, je crois, en septembre dernier. Voilà, elle est inoxydable.
Merci, cette Serena. Merci Sébastien Legénie.